Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre publié en 2022 par The Shift Project, Climat, Crise. Le plan de transformation de l'économie française est un essai de politique publique et de prospective économique. Il condense les travaux du plan de transformation de l'économie française, élaboré afin de proposer une trajectoire de décarbonation applicable au contexte national. Le point de départ est exigeant, rendre l'économie compatible avec une baisse annuelle des émissions de 5%. En cohérence avec les engagements climatiques, sans traiter l'emploi comme une variable secondaire. L'ouvrage ne se limite donc ni au constat climatique, ni à une liste de technologies. Il examine les conditions matérielles, sociales et institutionnelles d'une transformation dans des domaines aussi variés que l'énergie, le logement, les mobilités, l'agriculture, l'industrie, la santé, la culture ou l'administration. Sa finalité est de mettre à disposition des décideurs comme du public un cadre sectoriel chiffré dans ses orientations, pour penser les arbitrages et les dépendances qui structurent la transition française. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une planification sectorielle plutôt que des objectifs climatiques abstraits. La singularité principale du livre réside dans son échelle d'analyse. Au lieu de présenter la neutralité carbone comme un horizon global dont les modalités resteraient indéterminées, The Shift Project décline la transformation par secteur. Chaque domaine est abordé à partir de sa situation actuelle, de son poids économique et social, de ses émissions, puis des leviers disponibles. Cette démarche rend visible un fait souvent masqué par les discours généraux, les réductions d'émissions ne se produisent pas dans une économie abstraite, mais dans des chaînes de production, des infrastructures, des métiers et des usages quotidiens. Les mobilités ne relèvent pas des mêmes choix que le logement ou l'agriculture. Même si tous dépendent de l'énergie et des matériaux, le cadre proposé associe ainsi techniques, pratiques et institutions. Une solution technique ne suffit pas si les comportements, les compétences, les règles ou les investissements restent inchangés. Inversement, la sobriété ne peut être réduite à une injonction individuelle quand les réseaux de transport, la forme urbaine ou l'offre de logement contraignent les choix. Le livre défend donc une planification qui coordonne les décisions publiques, les entreprises et les territoires avec des objectifs concrets à l'horizon 2050. Deuxièmement, la sortie des énergies fossiles exige sobriété et électrification simultanée. L'ouvrage insiste sur un double mouvement parfois présenté à tort comme contradictoire. D'une part, une part croissante des usages doit être électrifiée afin de réduire la dépendance directe au pétrole, au gaz et au charbon. Cela concerne notamment certains transports, le chauffage et des procédés industriels. D'autre part, le remplacement d'un combustible fossile par de l'électricité ne permet pas de contenter sans limite les mêmes volumes de consommation. La production électrique, les réseaux, les équipements et les matériaux nécessaires imposent des contraintes physiques et des délais. The Shift Project refuse ainsi l'idée selon laquelle une simple substitution technologique maintiendrait automatiquement les flux actuels de matières, d'énergie et de marchandises. La sobriété prend ici un sens structurel, réduire les besoins évitables, concevoir des usages moins intensifs et privilégier des organisations compatibles avec une disponibilité énergétique plus contrainte. Cette orientation ne signifie pas l'absence de progrès technique. Elle cherche plutôt à situer la technique dans un ensemble plus large de décisions collectives. Le raisonnement vise aussi la résilience, une économie moins exposée aux approvisionnements fossiles importés et moins vulnérable aux crises énergétiques et géopolitiques. Troisièmement, le travail devient une condition centrale de la transition juste. Le livre traite l'emploi comme un élément constitutif de la stratégie climatique et non comme une conséquence à examiner après coup. Une transformation profonde déplacera inévitablement les besoins de main-d'œuvre. Des activités liées à la rénovation des bâtiments, au rail, au vélo, à une agriculture moins dépendante des intrants fossiles ou à la réparation pourraient gagner en importance. A contrario, des secteurs très dépendants des carburants fossiles, de la construction neuve ou de certains transports longue distance connaîtraient des réductions ou des reconversions. Les travaux du Shift Project avancent un ordre de grandeur de 3-6 000 emplois nets créés, issus de créations et de suppressions plus nombreuses. Les auteurs précisent que ce calcul correspond à un scénario de transformation, non à une prévision automatique. Son intérêt est de déplacer le débat. Une transition crédible doit organiser les formations, les mobilités professionnelles, les revenus et l'accompagnement territorial des salariés concernés. Sans ces dispositifs, même une mesure écologiquement cohérente peut accroître les inégalités et susciter un rejet durable. Le livre met donc l'accent sur les compétences, la qualité des emplois et la capacité collective à réallouer le travail vers des activités utiles dans une économie basse carbone. Quatrièmement, les modes de vie et les services publics sont aussi des leviers climatiques. En couvrant la santé, l'éducation, la culture, l'administration publique et les territoires, le plan élargit la question climatique au-delà des secteurs traditionnellement associés aux émissions. Ce choix repose sur une logique claire, les services publics orientent des achats, des bâtiments, des déplacements, des équipements et des normes qui influencent durablement les pratiques collectives. Leur exemplarité peut donc contribuer à transformer les conditions ordinaires de la vie sociale. De même, les changements de mode de vie ne sont pas analysés comme de simples préférences privées. Habiter près des services, accéder à des alternatives à la voiture, réduire les déplacements contraints ou mieux organiser les flux de biens dépendent de décisions d'aménagement et de politiques publiques. Cette approche évite de faire porter toute la responsabilité sur les ménages. Elle rappelle toutefois que la réduction des émissions engage des arbitrages sur le confort, la mobilité, l'alimentation et les loisirs. Le livre associe ainsi atténuation climatique et résilience territoriale, des territoires mieux préparés aux tensions énergétiques et aux effets du réchauffement disposent de davantage de marge de manœuvre pour maintenir les services essentiels. La cohérence entre échelle nationale et échelle locale devient alors décisive. En dernier lieu, des propositions opérationnelles confrontées aux défis de la mise en œuvre politique. Climat, crise se distingue par sa volonté de passer du diagnostic à un programme d'action. Il présente des leviers, des objectifs de transformation et des implications sociales pour de nombreux secteurs. Dans un format plus accessible que les rapports techniques dont il provient, cette ambition fait sa force, elle oblige à examiner les interdépendances entre énergie, infrastructure, emploi, finances et comportement, plutôt que de célébrer des mesures isolées. Elle constitue aussi sa principale difficulté. Une trajectoire sectorielle ne devient effective que si elle est portée par des investissements, des règles stables, des institutions capables de coordonner les acteurs et un soutien démocratique durable. Certaines critiques de lecteurs soulignent le caractère très ambitieux de l'ensemble et la difficulté politique de faire appliquer des propositions aussi détaillées. Cette réserve est pertinente sans invalider le projet. Le livre ne prétend pas que la transition serait indolore ou purement technique. Il rend au contraire visibles les décisions qui devraient être assumées. Sa valeur analytique tient donc autant aux solutions avancées qu'aux questions qu'il impose, qui financent les infrastructures, comment répartir les efforts, quel secteur prioriser et comment éviter que les contraintes climatiques ne se traduisent par une désorganisation sociale. En conclusion, ce livre s'adresse en priorité aux responsables publics, aux élus locaux, aux dirigeants d'entreprises, aux professionnels de la transition et aux étudiants qui cherchent une vue structurée des transformations nécessaires en France. Il peut également intéresser les lecteurs non spécialistes, à condition d'accepter une lecture dense, car il relie les choix individuels à des mécanismes économiques et institutionnels plus larges. Son bénéfice pratique est de fournir une grille pour évaluer les annonces climatiques. Une mesure peut être interrogée au regard de ses besoins énergétiques, de ses effets sur l'emploi, des infrastructures requises et de sa cohérence avec les autres secteurs. Son bénéfice intellectuel est de montrer que la décarbonation n'est ni un simple problème de morale individuelle ni un dossier réservé aux ingénieurs. Elle concerne l'organisation matérielle de la société. Par rapport à de nombreux essais sur le climat, l'ouvrage se démarque par son ancrage français et par sa méthode systématique. Il ne privilégie pas un seul récit, celui de l'innovation, de la décroissance ou de la responsabilité personnelle. Il articule électrification, réduction des flux physiques, transformation des usages, formation et planification publique. Cette ambition de coordination explique son intérêt durable. Elle ne dispense pas le lecteur de discuter les hypothèses, les priorités ou la faisabilité politique et de mesure, mais elle offre un point de comparaison précis pour mener cette discussion sans rester au niveau des slogans. Si vous souhaitez soutenir The Shift Project, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!